Avez-vous déjà observé les étapes de dressage d'un chien? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des chiens dans la salle? Quelques-uns, voilà. Peut-être vous l'avez fait dresser. On lui apprend quelque chose, il fait faux, on le corrige, il obéit, il essaie à nouveau, il se trompe, il est puni, puis corrigé, et petit à petit, il commence à accomplir avec précision ce qu'on lui demande. Assis, Brutus! Il est assis, c'est bon. De plus, ce qui est beau à voir, c'est qu'il fait tout cela avec joie, toujours avec sa queue qui bat derrière. Papapapap. Il est tout content d'obéir à son maître. Pourquoi? Parce que l'animal cherche à réjouir son maître. C'est beau, non? On le punit, on le corrige, mais il est toujours là. Ouais, vas-y, dis-moi encore quelque chose. Je veux t'obéir. C'est génial. Le dressage d'un chien est un long processus qui comprend souvent des coups, des punitions, des récompenses aussi. Et l'aboutissement de ce processus crée une belle complicité et la confiance entre le maître et l'animal. C'est magnifique quand même. Moi, j'aime bien les chiens, mais chez les gens. Je n'ai pas le temps pour avoir un chien, mais je sais quand ils sont bien dressés, c'est magnifique de voir la complicité qu'il y a entre un chien et son maître. C'est très beau. Mais ça, c'est pour les autres. Je ne crois pas que nous soyons aussi conciliants et dociles que les animaux lorsqu'il s'agit d'obéissance dans notre apprentissage. Je n'ai pas encore d'enfant avec Mélodie, bientôt, peut-être, mais j'ai suffisamment observé des amis parents et été en contact avec des enfants pour réaliser que l'éducation n'est pas simple, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez dire amen, les parents? Ok, je ne suis pas fou, donc c'est bien. Ce n'est pas facile, l'éducation. Il est vrai que l'éducation passera souvent par des temps de découverte, mais aussi de correction, de punition, de pleurs, comme nous, bien sûr, Carmela, de pleurs, de tristesse, mais d'encouragement aussi. Pourquoi? Pourquoi la punition? Pourquoi la correction? Car nous savons que certaines choses ne sont pas bonnes pour nos enfants, n'est-ce pas? Et que nous voulons le meilleur pour eux, n'est-ce pas, chers parents? Amen. Heureusement, du reste. Mais eux ne le savent pas toujours. Ils n'ont pas compris qu'on souhaitait le meilleur pour eux. Tout comme des enfants, nous aussi, en tant que chrétiens, nous passons par ce processus de croissance qui peut être difficile parfois et nous attrister. Et aujourd'hui, j'ai nommé le titre de ce message « Attrister pour mieux briller ». Attrister pour mieux briller. Et je crois vraiment, je vois le Saint-Esprit qui agit entre le mot de Victor, ce que Ariel aussi a partagé. Je pense que le Saint-Esprit veut venir nous faire briller. Mais nous devons peut-être passer par un temps d'attristement d'abord. En effet, c'est vrai, nous allons souvent passer par des moments de tristesse dans notre chemin avec le Seigneur. C'est une réalité. Mais pour quelle raison sommes-nous tristes? En fait, c'est la raison de notre tristesse. Quelle est la raison de notre tristesse? Notre réaction face à cette tristesse nous permettra ou pas de lui ressembler davantage et de le représenter davantage. Lisez avec moi, prenez 2 Corinthiens 7, 8 à 11. On va lire un passage que le Seigneur a mis sur mon cœur quand j'ai eu ma date pour prêcher ce matin. J'ai dit, Seigneur, je vais parler de quoi? Et rapidement, ce passage est venu dans mon cœur. 2 Corinthiens 7, versets 8 à 11. Quelques versets, mais ô combien puissants. Même si je vous ai attristé par ma lettre, je ne le regrette pas. Et si je l'ai regretté, car je vois que cette lettre vous a momentanément attristé, je me réjouis maintenant, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a amené à changer d'attitude. Car vous avez été attristé selon Dieu, si bien que vous n'avez subi aucun dommage de notre part. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Cette même tristesse selon Dieu, voyez quel empressement elle a produit en vous, quelle excuse, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez démontré à tout point de vue que vous étiez pur dans cette affaire. Amen. Un passage extrêmement fort que j'aimerais venir présenter devant vous ce matin et prier que le Saint-Esprit vraiment agisse. Paul reçoit un bon retour de cette lettre qu'il a écrite aux Corinthiens, une lettre où il est venu leur faire des reproches, leur faire des remarques sur leur attitude. Mais il est heureux de recevoir un retour positif, que cette lettre bien que douloureuses, apporter des fruits de repentance, apporter des fruits de transformation de vie. Et il est tellement heureux, il se réjouit du changement d'attitude de ses bien-aimés fils dans la foi de Corinthe. Vous êtes-vous déjà posé la question, peut-être même ce matin, qu'est-ce qui vous rend heureux, qu'est-ce qui vous rend joyeux dans votre quotidien? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Les réponses peuvent être nombreuses. Voici quelques exemples que j'ai notés, dont un que j'ai même fait ce matin. Avoir un bon café chaud le matin. Un croissant au beurre, un pain au chocolat, pain au raisin, choisissez votre préférence. Avoir une famille, avoir des amis, être en bonne santé, avoir du succès dans mon travail, être apprécié autour de moi, voir mes enfants réussir dans la vie. Ces réponses ne sont pas mauvaises, ne me mécomprenez pas. Ces réponses ne sont pas mauvaises. Mais que se passe-t-il quand ces choses n'arrivent pas ou quand ces choses disparaissent? Et là, on peut penser à nos frères et sœurs persécutés, lorsque la famille est enlevée, lorsque le café n'existe pas. Et merci beaucoup pour la famille Butzer. Merci Monique, j'ai reçu un email où elle me parlait de ses paquets de Noël. Je ne vais pas en parler, mais juste de la joie d'un café. Parce que ce n'est pas un dû de boire du café le matin. Est-ce que là est votre joie dans ces choses-là? Écoutez ce que dit le psalmiste anonyme, on ne sait pas qui c'est, dans le psaume 119, qui est pour moi mon psaume préféré. Ils sont heureux, verset 1, hein, c'est la manière dont il commence. Ils sont heureux ceux et celles qui se conduisent parfaitement, qui respectent la loi du Seigneur. Amen. Je relis. Ils sont ou elles sont heureuses ceux qui se conduisent parfaitement, qui respectent la loi du Seigneur. Waouh, la clé quoi, ils sont heureux. Il n'a pas dit ils sont heureux ceux qui boivent du café le matin. Il n'a pas dit ils sont heureux ceux qui ont une famille avec 5, 6, 8 enfants. Il a dit ceux qui vivent parfaitement et qui respectent la loi du Seigneur. Regardez de quelle manière le psalmiste commence ce psaume qui est le plus grand. 176 versets, quand je le lis, ça prend au moins 15 minutes. Souvent, je viens ici et je lis ce psaume qui, pour moi, est si précieux. Parce que quasiment tous les versets parlent de ce désir de plaire à Jésus, d'obéir à la loi de l'Éternel. Ils disent « Tes décrets sont merveilleux, apprends-moi à les respecter. Montre-moi comment marcher dans le chemin de l'Éternel. » Durant quasiment toute la durée de ce psaume, il ne fait qu'une chose. « Seigneur, je veux prendre ma joie dans l'obéissance à ta parole. » Amen. C'est merveilleux. Pourrions-nous nous joindre à cette prière? Est-ce que vous vous joignez à cette prière? À plaire à Jésus et à obéir à ses commandements? Ou sommes-nous davantage comme les Corinthiens? À chercher à se plaire à soi-même, à se faire plaisir. Nous vivons dans la culture de l'hédonisme. Peut-être un mot qui est inconnu pour vous. L'hédonisme, c'est le culte du plaisir. Alors vous allez me dire, mais non, moi je suis chrétien, je ne me fais pas plaisir, je me flagelle, tac, tac, moi je viens à l'église sur des bancs en bois. C'est difficile, c'est dur, moi je ne prends pas plaisir. Est-ce que vous pensez que le plaisir est que pour ceux qui sont en dehors de l'église? Est-ce que la culture du plaisir se trouve en dehors des murs de l'église? C'est pas pour le chrétien? Non, non. Aujourd'hui c'est drôle, mais je trouve que dans les églises, justement, et c'est même vraiment quelque chose qui devient très problématique. Dans certains milieux, on prend plus de temps à se faire plaisir, à avoir des activités ensemble fun. Attention, on doit prendre des temps de plaisir et de communion. Mais ça devient plus important que la sainteté, plus important que l'obéissance à la loi, plus important que de plaire à Jésus. On se fait plaisir à soi-même. Nous voulons nous faire plaisir et vivre bien. Tu veux que je te raconte mes vacances? Aussi, tu voyais ma nouvelle voiture. Toute option. Regarde avec qui j'étais ce week-end sur mon Instagram et tout. Regarde les photos. J'étais à Paris. On se vante bien très souvent de ce qu'on fait dans notre quotidien, de nos nouveaux achats. Combien de fois vous vous vantez d'avoir obéi à la parole de Dieu? Combien de fois vous vous réjouissez d'avoir été persécuté parce que vous avez dit « J'aime Jésus !» Ce n'est pas souvent que vous mettez ça sur votre compte Facebook ou Instagram ou peu importe lequel vous avez. Mais d'habitude, on va plutôt mettre justement avec qui on a passé le bon repas que j'ai mangé dans ce super restaurant. C'est ça notre joie. La question devrait être plutôt, sommes-nous en train de nous réjouir d'obéir au commandement de Dieu? Sommes-nous heureux de faire sa volonté? De faire ce qui lui plaît? J'aime dire la vérité, peu importe le coût. J'aime prendre soin des malades, même si ce n'est pas facile. J'aime pardonner. Ouh là là, ça c'est encore plus difficile. Mais je prends plaisir à pardonner. J'aime bénir mes ennemis. Mon plaisir, comme le dit le psalmiste, c'est de faire tes décrets, c'est d'obéir à tes décrets. Car vous savez, c'est là où se trouve la vraie joie. C'est là où vous allez trouver la plénitude, la joie complète, le contentement, pas quelque chose qui est éphémère. C'est lorsque vous obéissez pleinement à la parole de Dieu, vous êtes pleinement accompli en vous. Cherchons à comprendre pourquoi alors Paul dit dans ce verset 8, « Même si je vous ai attristé par ma lettre, je ne le regrette pas. Et si je l'ai regretté, car je vois que cette lettre vous a momentanément attristé. » Paul est triste de devoir faire des remarques à ses bien-aimés. Il est triste de voir une assemblée qui a entendu la vérité, mais qui ne l'a pas assimilée et qui n'a pas agi en conséquence. Alors il est triste, mais il est obligé, parce qu'il les aime, de dire « Je ne veux pas te laisser aller dans le mur. » Alors il le fait, et ça l'attriste. Mais il est lui-même attristé, parce qu'il est là. Mais pourquoi? Pourquoi vous allez dans ce chemin qui ne vous donne même pas la joie? Qui vous torture? Comme on l'a dit, et je vais revenir sur ce que Victor a dit, et je pense que c'était vraiment conduit, que certains, vous êtes aujourd'hui ici, avec cette culpabilité, « Oh Seigneur, j'ai péché, mais mince, je suis là, et vous n'êtes pas bien. » Parce que c'est ce que ça produit qu'on cherche à plaire à Dieu, mais qu'on ne le fait pas. Que feriez-vous si vous étiez en contact avec un frère ou une sœur qui prenait beaucoup de plaisir à jouer son argent au casino et ainsi de mettre en danger sa famille et sa vie avec le Seigneur? Que feriez-vous? Est-ce que vous direz « Super, quand tu as touché le million, viens m'acheter ma voiture, c'est une nouvelle voiture que j'aimerais bien. » Ou est-ce que vous seriez plutôt là « Mais non, tu es en train de t'éloigner, tu es en train de perdre, tu es en train d'aller à la mort. » Et là, vous seriez concerné, comme Paul, de voir que votre frère est en train de s'égarer. Est-ce que vous seriez concerné? Ou est-ce que vous seriez, bon, c'est son problème, c'est pas ma vie? Est-ce que vous êtes concerné par ceux qui sont à côté de vous, celles qui sont à côté de vous, qui s'enfoncent ou pas? Sommes-nous prêts à entendre la vérité? Est-ce que nous sommes conscients d'attrister le Seigneur? Avons-nous seulement réalisé ce que nous faisons? Sommes-nous attristés par notre péché? Et je vous pose la question, est-ce que vous êtes attristé lorsque vous êtes dans le péché? Et je pense que ce matin, beaucoup sont attristés. Et je dis merci au Seigneur. Mais comme je l'ai dit au début, ça va dépendre la réaction face à cette tristesse. Va dépendre aussi ce que Dieu peut faire dans votre vie, aujourd'hui aussi. Je me réjouis maintenant, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a amené à changer d'attitude. Car vous avez été attristés selon Dieu, si bien que vous n'avez subi aucun dommage de notre part. Avez-vous déjà entendu une vérité sur votre vie qui fait mal? On dit souvent la vérité, il n'y a que la vérité qui blesse, n'est-ce pas? Mais j'ai envie de vous dire, ça fait plaisir d'avoir une parole de vérité sur votre vie, parce qu'un frère ou une sœur justement prend soin de votre vie et va dire, là Nico, tu es en train de t'égarer, ou là ce que tu as fait, ce n'était pas juste. C'est dur, aïe, humilité hein. Humilité, reconnaissance de est-ce que je suis dans le juste ou dans le faux. Mais est-ce que je préfère recevoir la vérité et changer de direction pour aller vers quelque chose de meilleur? Ou est-ce que je préfère dire, tu sais quoi, je préfère que tu me mentes, dis-moi juste que ça va bien. Continue de me caresser dans le sens du poil. Laisse-moi aller dans le mur tout droit, même si tu le vois, me dis pas. Parce que j'ai pas envie d'entendre quelque chose qui me fait mal. J'ai pas envie. Comme je l'ai dit au début, en tant que parent, mais aussi justement amis, patrons, nous devons parfois corriger, nous devons parfois punir. Mais c'est pour permettre à la personne de faire mieux. C'est pour permettre à la personne de ne pas aller vers quelque chose de mauvais pour elle. Que faites-vous vers vos enfants? Combien de fois vous les avez punis? C'est même biblique, punissez vos enfants, attention, on ne dit pas de les battre, mais corrige-les, afin qu'ils ne s'éloignent pas de la parole de Dieu. Corrige-le, instruis-le. Et ça va demander des fois des coups, des punitions. Mais c'est pour son bien. C'est pour notre bien.
La correction est pour notre bien.
Mais encore une fois, ce qui est intéressant de réaliser, c'est notre réaction face à cette correction. Est-ce que vous vous braquez? Est-ce que vous êtes justement, est-ce que c'est difficile à prendre? Est-ce que la correction vous fait mal? Et tu dis non, je n'ai pas envie d'entendre ça. Je ne suis pas prêt. Je n'ai pas envie. Sommes-nous heureux d'être remis à notre place? Est-ce que ça fait du bien? Est-ce qu'on est content? Mais j'ai envie de vous dire plutôt, est-ce que je suis heureux de désobéir? Est-ce que nous sommes tristes d'avoir fait faux? Est-ce que vous êtes triste quand vous avez fait quelque chose de faux qui a déplu à Dieu? Ou êtes-vous OK? Si c'est le cas, vous serez reconnaissant que l'un de vos frères ou de votre une sœur vienne vers vous avec amour, vous interpeller vers votre, par rapport à votre attitude. Et c'est d'ailleurs ce que je dis justement avec les responsables du groupe de jeunes. Et gloire à Dieu, ils le font. Et gloire à Dieu, je dis, Seigneur, OK, aide-moi à accepter les remarques. Mais oh, combien c'est bon pour ma vie. Car on met tout à la lumière. Écoutez ce que dit Salomon, l'homme le plus sage après le Seigneur. Dans le Proverbe 10, verset 17, « Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. » Celui qui retient la correction marche sur le chemin de la vie. Sommes-nous en train de marcher sur le chemin de la vie ou de nous égarer? Aujourd'hui, est-ce que vous marchez sur le chemin de la vie? Est-ce que vous êtes en paix avec le Seigneur? Ou est-ce que justement aujourd'hui ça bataille dans votre cœur? Parce qu'il y a la place, il y a le péché qui est là. Il est encore là et vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Vous n'êtes pas suffisamment attristé selon le cœur de Dieu. La correction qu'on reçoit, soit du Seigneur par le Saint-Esprit, soit de nos frères et nos sœurs, nous permet d'ouvrir les yeux sur le chemin sur lequel on est. Et heureusement justement que ces corrections arrivent. Heureusement. Car en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit à la mort. Que se passe-t-il quand vous vous mettez en colère? Que se passe-t-il quand vous avez menti à quelqu'un? Que se passe-t-il quand vous avez murmuré sur quelqu'un, critiqué quelqu'un? Ce que l'on fait souvent derrière le dos à l'église le matin, le dimanche, tout le monde est content. « Oh, t'es trop beau et tout. Oh, celle-là, elle me saoule. » Mais on le dit derrière, on n'ose pas venir justement devant. Que se passe-t-il à l'intérieur de vous lorsqu'on désapprouve ce que Dieu aime? Le péché, c'est faire ce qui n'est pas, ce qui ne plaît pas à Dieu. C'est désobéir au commandement de Dieu. Mais que se passe-t-il quand vous désobéissez? Que se passe-t-il au fond dans votre cœur? Il y a quelques jours, ça m'arrive aussi de regarder des films. Et j'essaie de faire attention au choix de mes films. Et j'ai dit, allez, je vais regarder un film d'action. Et j'ai commencé ce film, et après 10 minutes, j'ai arrêté ce film. Parce que très rapidement, le Saint-Esprit m'a convaincu, Nico, là, tu ne glorifies pas Dieu. Et ce film ne glorifie pas Dieu. Il y a beau avoir du snowboard, et tout, etc., du sport extrême comme j'aime, mais le contenu de ce message, ce film-là, ne glorifie pas ton Dieu. Est-ce que tu veux faire ça? Est-ce que tu veux continuer à regarder ce film? Et là, j'ai été interpellé par le Saint-Esprit et j'ai shut down, j'ai arrêté tout de suite. J'ai arrêté. Je vais vous dire quelque chose. Je lis passablement la Bible et d'autres livres. J'aime regarder et découvrir les puritains, ceux qui nous ont précédés, les réformateurs, etc., les Andrew Murray, les hommes et les femmes de Dieu qui ont eu une influence sur ce que nous avons aujourd'hui comme héritage spirituel. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart de ces gens qui ont vécu ou qui vivent encore aujourd'hui et qui sont attachés à l'obéissance sont ceux qui vivent le mieux, sont ceux qui sont le plus heureux. Pourquoi? Parce qu'ils obéissent justement au psaume 119, au psalmiste qui dit « Heureux celui qui se conduit parfaitement et qui prend plaisir à la loi de l'Éternel ». C'est très simple, il est heureux. Comme notre invitée la semaine dernière, elle vit dans la persécution, mais elle est pleine de Jésus, parce qu'elle obéit à la loi, parce qu'elle ne désobéit pas, et elle est en pleine satisfaction de la relation qu'elle a avec Jésus. Est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui de la relation que vous avez avec Jésus? Est-ce que vous êtes satisfait? Ou est-ce qu'il y a beaucoup de péchés qui viennent vous empêcher d'être satisfait de la plénitude? Est-ce que votre connexion est brouillée? Est-ce que vous êtes dans le tunnel avec Jésus? Seigneur, je ne t'entends pas. Attends, j'ai plein d'interférences. J'ai plein de péchés qui m'empêchent de t'entendre. Tout comme ce film que j'ai commencé et arrêté, aussitôt que j'ai arrêté ce film, la paix est venue dans mon cœur. Et j'ai pu déposer, j'étais là, Seigneur, pardon d'avoir regardé ce film. Mais j'ai fait quoi? J'ai arrêté. J'ai changé d'attitude. J'ai demandé pardon, mais j'ai changé d'attitude. C'est la repentance par la conviction du Saint-Esprit qui est venu en moi. Il m'a dit, Nicolas, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Va pas jusqu'au bout, parce qu'après tu vas le regretter. Tu vas dire, pourquoi je l'ai fait? Aïe, pourquoi je l'ai fait? J'aurais pas dû faire ça. Arrête. Si tu entends le Saint-Esprit te dire, arrête, obéis. Et bien souvent, on sait qu'on désobéit à Dieu. On le sait, n'est-ce pas? Dites-moi pas, non, j'ai pas entendu la petite voix là. Puis en plus, elle devient même très forte, la voix. Mais on a tendance à dire, tais-toi. Combien de fois on a fait ça? Combien de fois j'ai fait ça? Au moment où vous choisissez d'obéir, au moment où vous choisissez de dire non à ce péché et dire, Seigneur, je te demande pardon, je viens vers toi, je veux changer d'attitude, la paix et la joie de Dieu viennent dans votre cœur. Amen. J'espère que vous avez déjà vécu ça. On le vit, c'est le chemin de la sanctification, c'est un quotidien. Mais c'est la beauté qui se trouve dans la liberté de l'obéissance. Nous sommes libres lorsque nous obéissons. Lorsque nous obéissons à la loi, lorsque nous prenons plaisir à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, alors la liberté rentre et demeure en nous. Je continue avec mes versets, toujours 2 Corinthiens 7, 11, cette fois-ci on descend dans ce passage. Cette même tristesse selon Dieu, voyez quel empressement elle a produit en vous, quelle excuse, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez démontré à tout point de vue que vous étiez pur dans cette affaire. Le changement qu'a produit les remarques de Paul sont extraordinaires. Ils auraient pu être indignés. Ils auraient pu dire, mais tais-toi Paul, tu nous embêtes. Laisse-nous dans notre péché. Mais au contraire, ça a produit un zèle, un désir profond de plaire à Dieu. Une vraie repentance. Je ne sais pas si vous êtes déjà trouvé dans cette situation avec un cœur un peu partagé. Vous êtes justement pas, vous savez pas vraiment vous positionner sur « je veux faire la volonté de Dieu ». Et justement, comme on le dit, et comme l'a dit aussi Victor, en fait, vous ne vous retrouvez pas bien. On n'est pas bien. On n'est pas bien de désobéir à Dieu. Si vous êtes ici, c'est que vous avez envie de vous approcher de Dieu. Vous n'êtes pas ici juste parce que votre conscience vous dit « va à l'église le dimanche ». Parce que si c'est le cas, s'il vous plaît, priez et dites « Seigneur, je ne veux pas que ça ». Vous êtes ici parce que vous voulez ressembler à votre Dieu. Du moins, j'espère que c'est le cas. Alors si c'est le cas, vous avez envie et vous aspirez à avoir une attitude qui plaît à Dieu, avoir un cœur pleinement convaincu de vouloir faire ce qui plaît à Dieu. Et quand on ne le fait pas, alors on devrait être mal. Alors on devrait être triste. Et ce n'est pas confortable. C'est vrai, ce n'est pas confortable. Vous êtes d'accord peut-être avec moi de dire, si vous avez vécu une semaine où c'est une semaine avec, on va dire, beaucoup de péchés. Qu'est-ce que beaucoup, peu de péchés de nouveau? Je ne veux pas argumenter là-dessus. Mais vous avez désobéi à Dieu durant cette semaine. Lorsque vous venez le dimanche, comment allez-vous lever les mains au Seigneur? De quelle manière allez-vous lever les mains au Seigneur? Et c'est exactement ce que disait justement Victor dans cette parole. Je pense que certaines personnes, durant cette semaine, vous avez accompli des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Vous avez été jusqu'au bout de cette chose. Vous n'avez pas écouté le Saint-Esprit vous dire « arrête ». Demande pardon, change d'attitude et reçois la liberté. Reçois la paix. Alors vous êtes ici ce matin en disant, Seigneur, j'ai besoin de ta paix parce que j'ai désobéi, mais je ne me suis pas repenti, je n'ai pas demandé pardon. J'ai vécu la tristesse du monde, celle qui m'éloigne de toi. Et je suis convaincu aussi, c'est ce que j'ai marqué, je suis convaincu malheureusement que certains ne sont pas là ce matin. Parce que le poids de la culpabilité, de la condamnation qui ne vient pas de Dieu, la condamnation vient du diable, la conviction vient de Dieu. La conviction vous amène au pied de Jésus, la condamnation vous éloigne de Jésus. Et certains, malheureusement, certains de vos frères et de vos sœurs ne sont pas là ce matin parce qu'ils ont désobéi, mais ils se sont éloignés. Ils ont senti la culpabilité, ils n'ont pas retrouvé la confiance et l'amour du Père qui a toujours les bras ouverts, qui vous attend. Demande pardon, je te reçois. Et malheureusement, certains sont justement dans la culpabilité. ne laissez pas cette culpabilité vous empêcher de recevoir la paix de Dieu. Le péché qui n'est pas suivi d'une repentance sincère mène à une vie loin de la présence de Dieu. Mes chers amis, c'est une réalité. Si vous vivez en cherchant à plaire à Dieu et que dans la désobéissance, vous ne demandez pas pardon et vous ne changez pas d'attitude, vous vous éloignerez de Dieu et bien entendu de sa présence. Et vous allez venir à l'église, vous arriverez pas à dire « Seigneur, le pasteur ne m'a pas retrouvé dans son message. Mais quel est le péché qui était dans ta semaine ? Quelle est la chose que tu as fait où tu n'as pas demandé pardon et changé d'attitude alors que le Seigneur, ou peut-être même un frère ou une sœur te l'avait dit ? Qu'as-tu fait ? Est-ce que cette tristesse a provoqué un changement d'attitude ou pas ? Et j'ai envie de dire, c'est même pire que cela. C'est comme si vous disiez à Jésus, ton sacrifice n'est pas suffisant pour pardonner mes péchés. Tu n'as pas payé pour me donner la paix dans cette situation. Lorsqu'on refuse de demander pardon, on est en train de dire, ton sacrifice n'était pas suffisant pour me libérer de ce péché, pour me libérer de cette culpabilité. Mensonge. Lorsque vous laissez cette pensée venir, vous êtes en train de dire, Dieu, tu as envoyé ton fils, mais son sacrifice n'était pas suffisant. Est-ce que vous imaginez ce que vous faites ? Et c'est la réalité. Jésus a tout payé. Tes péchés passés, mes péchés passés, mon péché présent, mon péché futur. Il n'y en a pas qui ne sont pas compris dans le sacrifice parfait de Jésus. Il n'y en a aucun qui n'ont pas été pris à la croix. Je ne sais pas si vous réalisez cette réalité. Tous vos péchés, tous nos péchés ont été pardonnés. Il est venu pour sauver le pécheur. C'est ça la mission de Jésus. Et il l'a accompli. Tout est accompli, donc c'est fini. Donc maintenant, on peut rester dans cette paix et dans cette plénitude. Rappelez-vous de Judas et Pierre. Vous connaissez Judas et Pierre, non ? Ils font partie des 12 disciples. Que s'est-il passé avec Judas ? Judas a trahi Jésus. Pourtant, il était avec les 12 hein, pendant 3 ans, parce qu'il l'a trahi juste à la fin. Donc il est resté 3 ans. Personne n'a vu qui c'était. Seigneur, dis-nous qui c'est qui va trahir. Personne ne le voyait, parce que son attitude semblait être parfaite, ou du moins en tout cas parfaite selon critères humains. Judas a trahi, le remords est venu, la culpabilité est venue, mais que s'est-il passé ? Que s'est-il passé avec Judas ? La tristesse du monde l'a mené à la mort, parce qu'il n'avait pas compris que Jésus avait la capacité de pardonner tous ses péchés, alors qu'il l'avait vu œuvrer tout au long de son ministère. Il l'avait vu pardonner les péchés. Guérir des paralytiques en disant d'abord tes péchés sont pardonnés. Il n'a pas dit lève-toi et marche, il a dit d'abord tes péchés sont pardonnés car j'ai le pouvoir de pardonner les péchés. Que s'était passé avec Pierre ? Pierre a renié 3 fois Jésus. Il en a pleuré, il était triste, effondré. Mais qu'a-t-il fait ? Il est revenu à Jésus. Il est revenu à Jésus pour briller davantage, pour être celui sur lequel Jésus a dit je vais bâtir mon église sur toi Pierre, parce que ton zèle pour moi, ta faim pour moi, mais aussi ta sensibilité et ton cœur tendre me permettent de dire, je sais que tu vas demander pardon et je sais que je vais pouvoir construire avec toi, avec quelqu'un qui se demande pardon, qui choisit la repentance, qui choisit de s'humilier. Alors je peux faire quelque chose avec toi. J'arrive gentiment au bout, j'espère que vous êtes encore attentifs. Si Dieu nous demande de lui obéir et que nous manquons de le faire, s'il vous plaît, ne nous flagellons pas. Ne laissez pas la culpabilité, l'apitoiement sur soi vous éloigner de la croix. Jésus a tout payé à la croix. Mais choisissez de dire, ok, j'ai fait faux. Vous avez peut-être tous déjà avoué une erreur. Oh, combien on se sent mieux ! Combien on se sent mieux quand on a dit, oui, j'ai fait faux ! Combien on se sent mieux ! On se sent mieux lorsqu'on a demandé pardon à quelqu'un qu'on a offensé. Lorsqu'on a obéi à la parole de Dieu, alors on est heureux. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Et le désir de Dieu, c'est qu'on reste dans ce chemin de repentance continuelle qui nous amène à lui ressembler davantage et en fin de compte, on va de moins en moins tomber. On va de moins en moins devoir nous repentir parce que la vie de Dieu sera pleine et on vous dira « je veux rien d'autre ». C'est exactement ce qui se passe justement avec ceux qui sont fans de Jésus, ceux qui aiment tellement Jésus. Il dit, je veux faire que ta volonté parce que c'est la seule chose qui me plaît, c'est de faire ta volonté. Alors ces gens-là vivent une vie pleine avec le Seigneur, une vie satisfaisante avec le Seigneur. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'amour que vous avez pour Jésus va vous donner la joie de lui obéir. Ça va produire une joie dans votre cœur d'obéir à ses commandements. Ça ne sera pas un fardeau. Ça ne sera pas un fardeau. Jésus a vécu une vie pleine sur la terre. Pourquoi ? Parce qu'il a obéi pleinement à son Père. Il était complètement satisfait malgré les souffrances qu'il a vécues. À la croix même, il disait « Pardonne-leur ! Pardonne-leur !» Il a vécu une vie parfaite parce qu'il était parfaitement dans l'obéissance. Vivez l'obéissance et vous allez découvrir la liberté que ça procure. Vivez l'obéissance au quotidien. Choisissez de vous réjouir d'obéir à la parole. Demandez au Saint-Esprit, sonde mon cœur lorsque ça ne va pas. Sonde mon cœur. Cette même tristesse, selon Dieu, voyez quel empressement elle a produit en vous. Quelle excuse, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez démontré à tout point de vue que vous étiez pur dans cette affaire. Paul se réjouit de la réaction des Corinthiens. Paul se réjouit de voir qu'ils auraient pu se braquer. Ils auraient pu refuser la correction. Ils auraient pu refuser d'être sondés par le Saint-Esprit et de mettre à la lumière ce qu'ils faisaient qui ne plaisait pas au Seigneur. Mais au contraire, ça a procuré un zèle, une joie plus grande. Non seulement pour eux, parce qu'ils ont pu redécouvrir la plénitude dans le Seigneur, mais aussi pour Paul. Et vous savez quoi, le plus grand des plaisirs pour un pasteur ? Je vous le dis et je le vis et je suis heureux de voir plusieurs jeunes qui sont là et de les voir être transformés et de prendre plaisir à obéir à Jésus. Vous savez quoi, c'est la plus grande des joies. Pour moi, c'est vrai, voir une église pleine, c'est super, mais si c'est une église pleine de gens qui n'obéissent pas au Seigneur, honnêtement, je préfère qu'il y ait 5 personnes, mais qui soient à fond en train d'obéir et qui se réjouissent de leur vie satisfaisante avec le Seigneur. Je préfère ça, parce que je sais qu'ils sont aussi, eux, pleinement satisfaits. La repentance est l'action miraculeuse du Saint-Esprit en nous. Et c'est par elle que nous pouvons recevoir le pardon de nos péchés et le salut que Jésus nous offre. Sans la repentance, il n'y a pas de salut. Je ne sais pas si vous avez réalisé ça. Qu'est-ce que vient faire le Saint-Esprit dans notre vie ? Il vient mettre le péché à la lumière et nous dire « Mais je suis pécheur, j'ai besoin d'un sauveur ». La repentance précède le salut. Sans repentance, vous n'avez pas de salut. Et sans repentance, vous n'avez pas de paix non plus, parce que la paix est offerte lorsque vous avez reçu le salut. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Tant mieux. Alors maintenant, justement, produisez des fruits de repentance. Comme dit Luc dans le chapitre 3, verset 8, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Est-ce que votre attitude montre que vous êtes disciple de Jésus ? De nouveau, on n'est pas sauvé par les œuvres, mais est-ce que votre attitude révèle que la repentance agit pleinement et que votre plaisir, c'est d'obéir au Seigneur ? Est-ce que les gens voient ça lorsqu'ils vous voient ? C'est notre amour pour Jésus qui nous poussera à rester sur le chemin de l'obéissance, où se trouvent la paix et la joie. La repentance est en notre pouvoir. Mes amis, ce n'est pas mon pouvoir, et là je vous le dis, chers frères et sœurs, ce n'est pas moi qui vais me repentir à votre place. Personne ne peut vous offrir le salut que vous choisissez vous-même de dire « Ok, je me suis trompé, j'ai fait faux, Seigneur, je vois que tu me convaincs. » Je choisis de demander pardon. C'est un choix. La repentance est un choix. C'est à vous de prendre, de choisir la bonne chose. C'est à vous de réagir face à la tristesse, soit un, soit l'autre. Alors que je vais terminer ce message, et c'est, j'ai du jus d'orange, et j'avoue que j'aime bien le jus d'orange. Peut-être certains d'entre vous aiment bien aussi le jus d'orange. Mais j'aime bien aussi le café au lait. Peut-être que certains d'entre vous aiment bien aussi le café au lait. Alors je bois un peu de café au lait. Il est plutôt froid. C'est pas mal, mais je vais boire aussi du jus d'orange. Séparément, ils sont pas mal. Ça va, avec alternance, un petit peu séparé, ça va. Qu'est-ce que je suis en train de faire ici ? Un bon mélange ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ici ? Je dis, j'aime bien ta vie, Seigneur. J'ai envie de te plaire. Ah, mais j'aime bien le péché quand même. Il a quand même un bon petit goût. Mais j'aime quand même bien te plaire. Est-ce que vous ne faites pas plutôt comme ça ? Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire ça plutôt ? De dire, mais qu'est-ce que tu fais là ? Mais comment tu peux boire quelque chose qui est bon seul et rajouter quelque chose qui ne va pas avec ? C'est ce qu'on est en train de faire des fois. Vous êtes en train de dire, Seigneur, je veux ta vie. Et derrière, vous rajoutez un peu de péché, et puis t'es là, ouais. Puis en fin de compte, vous vous êtes tellement habitué que vous ne le sentez même plus. Mais le Seigneur, il vous appelle à boire du jus d'orange sans péché. Il vous appelle à boire quelque chose qui est pur et à vivre la plénitude qu'il a payée à la croix pour vous et pour moi. Il ne veut pas que vous buviez quelque chose qui a pas de goût, qui n'est pas bon, qui n'est pas fait pour aller avec un café au lait. Buvez du café au lait tout seul, mais ne mélangez-les pas avec la vie du Seigneur. Ne mélangez pas votre vie de péché avec le Seigneur. Ils sont complètement opposés. Le Seigneur est saint. Et on doit aspirer à la vie de sainteté.